Bonjour chers fidèles d'IDFM, c'est Didier pour un nouveau rendez-vous compte et pour une rencontre riche en émotions et en humanité. Bonjour Samuel.
Bonjour.
Et bonjour aussi et merci à Marine qui, comme à chaque enregistrement, croque nos invités, des portraits que l'on retrouve sur la page de nos podcasts. Bonjour Marine.
Bonjour.
Elle n'a pas de micro. Voilà. Alors Samuel, tu as aujourd'hui 25 ans.
Tout à fait.
Mais je t'ai connu beaucoup plus jeune, lorsque tu portais encore un prénom dans lequel tu ne te reconnaissais pas.
Oui, tout à fait, car je suis trans et j'ai entamé ma transition il y a presque 10 ans maintenant. Voilà.
Voilà. Alors, tu étais scolarisé au collège Louis-Augustin Bosc.
Tout à fait.
À Saint-Prix.
Tout à fait.
Voilà. Et c'est là que je t'ai connu. Alors, je t'ai eu comme élève et à 14 ans... Tu faisais preuve déjà d'une maturité différente des autres élèves et de toi, je garde le souvenir d'une vidéo assez étonnante réalisée dans le cadre d'un travail personnel. Alors, quelle était cette vidéo ?
Alors, c'était une espèce de petit court-métrage, je crois qu'il durait peut-être quelque chose comme 3 minutes, quelque chose comme ça, qui s'appelait « Psy ». Et en fait, « Psy », alors moi, cette période-là, je le comprends pas. Pas du tout encore, et puis il y a beaucoup d'événements extérieurs qui y participent, mais je souffre de dépression. Je vais être diagnostiqué quelques années plus tard, 2 ans plus tard. Et en fait, dans Psy, c'est une mise en scène de ma raison, donc de moi déguisé sommairement en psychiatre avec une blouse blanche, et de l'autre côté, ma folie, ma déraison, qui est incarnée par une version de moi un peu plus grunge, avec je sais plus ce que j'avais comme vêtement, mais une veste un peu militaire.
Un bandeau dans les cheveux.
Un bandeau dans les cheveux, tout à fait. Et c'était une discussion, c'était des tiraillements qui étaient, je pense, très graves pour quelqu'un d'aussi jeune à l'époque, parce que j'avais 14 ans. Donc ça remonte il y a 11 ans pour moi maintenant. Et c'était le moyen, je pense. Il y avait peut-être un peu d'appel à l'aide derrière, de « regardez-moi, je ne vais pas bien, mais j'ai peut-être encore les pieds sur terre ». Et puis je pense que j'étais nourri aussi de beaucoup de choses très imaginaires pour comme ça me dédoubler, mais je pense que ça témoignait surtout d'un très grand mal-être où je voulais... peut-être qu'on voit de quoi je souffrais à l'époque, quoi. Alors que je pense que je devais être plutôt lisse et sans vagues de l'extérieur. Très vite, ça a été l'expression vidéo. Mais ces médiums-là, avec la musique, ont très vite été des espèces de sublimation et de catharsis pour moi de créer et... De me nourrir de choses pour un peu contrer le quotidien, quoi, ce moment-là.
Voilà, comme tu dis, c'est exactement le terme qui convient. Lisse, tu donnais l'impression d'une élève qui allait bien, qui était très créative, mais qui ne souffrait pas, on ne s'en rendait pas compte.
Ah oui, mais de toute façon, tout était... c'est un peu dans les notes que j'ai prises aussi en y réfléchissant à l'émission. C'était de toute façon, il fallait se fondre par stratégie de survie, en fait. Donc, il n'était hors de question que j'ai l'air trop masculin à l'époque, parce que j'ai pu souffrir de harcèlement scolaire à cause de ça. Il ne fallait pas être... j'étais quelqu'un qui était... maintenant, ce n'est plus le cas, mais j'étais quelqu'un qui avait commencé sa croissance assez vite. Donc, j'étais aussi beaucoup brimé là-dessus pour un physique qui était très différent. Donc, en fait, tout était une stratégie d'adaptation. C'était, il ne faut pas qu'on voit que j'ai l'air trans, il ne faut pas qu'on voit que je suis autiste. Même si, à l'époque, je ne le sais pas, je vois juste un décalage très apparent qui se fait avec mes pairs. Et en fait, à ce moment-là, c'est de la stratégie de survie de... vraiment essayer de ressembler le plus possible à quelqu'un de tout à fait normal, en fait, pour pas se, entre guillemets, se faire griller, tout simplement. Donc, je pense quelque chose de très lisse aussi, parce que ça a été le moment où j'ai commencé à peut-être être dans cette soupe de la dépression. En fait, on se laisse énormément porter et on ne s'attarde plus vraiment sur ce qu'on est, mais sur ce qu'on renvoie pour être le plus intégré en société, quoi.
Est-ce que tu aurais aimé à l'époque pouvoir parler à quelqu'un, un prof, un surveillant ou...
Je l'ai fait notamment quand j'ai commencé à me faire harceler et que ça a été que j'ai vécu un peu d'ostracisation de mes pairs. J'ai commencé à le faire avec mon prof de musique, qui était votre collègue à l'époque. Est-ce qu'on peut dire son nom?
On peut.
Mathieu Virmou, qui en plus du coup de m'avoir initié à tout un pan de la musique électronique. A été cet adulte-là à qui je pouvais parler entre deux pauses, en fait, et à qui je pouvais un peu décharger, on va dire, tous ces tourments adolescents qui étaient en plus de ça très spécifiques et dont j'ignorais encore les tenants, les aboutissants, quoi. Mais de manière générale, c'était. J'avais quand même très peur en me confiant que ça ressorte aussi et que les élèves puissent le savoir, et donc une fois de plus être ce cliché un peu du rat de bibliothèque qui va être proche des profs mais qui va se distancier des élèves et qui n'arrive pas à s'intégrer au sein des élèves. Est-ce que j'en aurais voulu plus en parler? Toutes mes tentatives à l'époque d'en parler ont résulté dans de l'inaction ou au contraire dans du renversement de j'avais dû bien faire quelque chose pour que tout ça m'arrive en fait. Après, on est en 2014, je pense qu'il y a des drames qui n'étaient pas encore arrivés. On n'avait pas encore l'affaire du petit Lucas qui avait été harcelé jusqu'à son suicide à cause de l'homophobie. Donc en fait, je pense qu'il y avait aussi des cas de harcèlement qui ne remontaient pas parce que on ne connaissait pas non plus les causes tout à fait. Moi, j'ai pu entendre des sales lesbiennes à mon encontre à l'époque parce que j'étais donc je suis un homme trans, mais à l'époque en fait, on me voyait surtout comme une jeune femme très masculine parce que moi j'essayais malgré tout d'être moi et de m'aligner avec moi-même. Mais ça a été des remarques comme ça a été des pages de livres qu'on m'a arrachées aussi, parce que j'étais très happé par mes passions. Et c'est peut-être des choses que j'ai voulu peut-être au contraire, à un moment donné, cacher pour que justement ne pas faire plus de vagues que ça, quoi.
Voilà, ce qui est terrible, c'est que nous, adultes, bah, on ne s'en rend pas compte.
C'est très dur, surtout si nous on a décidé de le
Voilà.
cacher et d'en faire un peu fi pour nous, on va aussi le cacher pour les autres, quoi.
Voilà, donc ça, c'était au collège. Et après, tu es passé au lycée, donc Franconville.
D'abord, j'ai fait une année à Enghien-les-Bains ici.
D'accord.
J'ai fait une année qui a été très compliquée aussi. Ça a été le moment où moi j'ai commencé à faire beaucoup de burn-out sans trop comprendre pourquoi. Donc après une année à Gustave Monod, je suis allé à Franconville, donc pas très loin d'ici non plus. Et là,
Le
alors que j'étais
lycée Jean Monnet.
lycée Jean Monnet, tout à fait, et alors que j'étais en théâtre à Gustave Monod, je repars en cinéma à Jean Monnet. Et là, j'essaye. Parce que j'arrive en cours de route, donc c'est très compliqué de reprendre une scolarité en cours de route à mi-année. On a comme exercice en première de réaliser du documentaire. Et donc là, j'essaie déjà de recompenser avec ma santé mentale. C'est très compliqué. Je viens de faire une overdose qui a été prise en charge. C'est là où on me dit que je fais de la dépression chronique. Donc à 16 ans, c'est très compliqué d'assumer toutes ces choses-là qui arrivent, toute cette souffrance avec laquelle on doit essayer de composer. Et finalement, à la fin de cette année de première, je rends un travail sur un reportage sur le skateboard en France. Et donc je suis allé interviewer des skateboarders sur la place de la République à Paris. Avec, je crois que j'avais aussi mis High Life des Daft Punk, mais de l'album Homework cette fois. Et je m'étais vraiment assez amusé. Je crois que le montage, par contre, j'avais détesté faire du montage à l'époque et ça n'a pas trop changé. Mais ça a été un premier exercice que j'avais quand même beaucoup aimé faire. Dans toujours cette idée de composer avec de la musique, de composer avec du réel, ce qui était l'exercice, cet exercice-là du documentaire m'a beaucoup servi par la suite. Et ensuite, on arrive donc à ma dernière année et enfin, de mon point de vue de scolarité, avec cette dernière année en option de cinéma, avec ce court-métrage qui s'appelle donc Dysphoria.
Alors, Dysphoria, dont j'ai parlé dans notre émission du 11 décembre, qui était consacrée au thème du genre. Et j'en avais fait une belle critique.
Ah, merci beaucoup. alors Dysphoria, c'est né parce que en fait moi je crois que j'étais pas encore très au clair de ma transidentité. Je crois que c'est très dur quand on n'a pas d'adultes autour de nous qui sont trans en fait, de réussir à se projeter et à se dire ben moi aussi j'ai le choix dans la vie, j'ai le choix de faire ma transition, j'ai le choix d'être la personne que je veux être. Moi j'ai pas du tout de modèle. Sauf qu'autour de moi, j'ai par contre des femmes trans qui ont à peu près mon âge, dont ma meilleure amie. Et en fait, je vois les souffrances par lesquelles elles passent, et puis je vois aussi les destinées de beaucoup de copines finalement. Et je me dis, mais en fait, j'aurais voulu le faire pour moi si j'avais eu plus de représentation d'hommes trans, mais à ce moment-là. Je vois surtout des femmes autour de moi qui souffrent et donc en fait je décide de faire Dysphoria pour un peu le dédicacer à ma meilleure amie, qui est toujours ma meilleure amie actuelle.
Son prénom, tu peux le dire?
Oui, elle s'appelle Adèle. Et donc elle le sait de toute façon. Et donc je commence à réaliser ça. C'est très compliqué le début parce qu'en fait on se dispute beaucoup avec ma prof en charge de nous faire réaliser ces courts-métrages-là. Parce qu'en fait, pour elle, il n'était pas possible que quelqu'un puisse autant souffrir dans sa vie et être autant rejeté. Ce qui est quand même une méconception assez terrible de ce que peut être la transidentité. Moi, heureusement, j'ai pas souffert de cela avec mes parents, mais j'ai quand même connu des ruptures familiales très violentes depuis ma transition. C'est quand même des choses qu'il faut rappeler, que le terrain aussi des relations interpersonnelles avec les autres peut être très violent, dans des contextes de drague, dans des contextes de soirée. Consentis s'en parle encore très bien, c'est une association qui s'occupe du consentement et des violences faites en soirée. On a encore des chiffres aberrants concernant les violences faites aux femmes cis et trans et des personnes LGBT en termes de soirée. Donc c'est quelque chose qu'on voit dans Dysphoria plus ou moins, dès que ces contextes de drague dans des lieux sociaux. Donc ce sont en fait des choses qui malheureusement existent encore, qui existaient déjà à ce moment-là. Et en fait j'avais besoin de faire une espèce de listing pour montrer en fait quelle peut être la finalité. Alors il y a eu deux fins. Une fin où...
Déjà, tu peux
Oui.
nous rappeler en une phrase l'histoire.
On va suivre pendant un temps donné une jeune femme qui est en cours de transition et qui s'appelle Anita. Et on va la voir dans plusieurs scénettes. C'est un très court métrage, il fait 5 minutes. Et on va la voir dans plusieurs scènes
D'abord dans la famille,
dans la famille,
après dans une soirée,
dans une soirée.
et ensuite à l'hôpital.
Voilà, l'hôpital.
Hein, donc effectivement, alors tu disais que deux fins, on t'a un petit peu contraint à faire deux fins différentes.
Oui, alors il y a la première qui est finalement, on pourrait dire, la director's cut, qui est celle où finalement le suicide malheureusement d'Anita réussit. Et l'autre dans lequel à la fin elle discute avec une infirmière. Et finalement, je ne sais plus comment ça a été décidé. Je crois que ça a été peut-être une grosse dispute à l'époque. Mes souvenirs sont peut-être un petit peu confus de cette époque-là. Mais moi, je voulais aussi une scène en audio, car on ne voit rien. Je ne voulais pas mettre de gore, je ne voulais pas quelque chose de voyeuriste, mais je voulais quelque chose d'impactant et qu'on comprenne par le son et par le sound design qu'en fait... Elle ne s'en sortirait pas, et j'avais besoin de ça aussi, pas forcément pour dire que les personnes trans sont des personnes malheureuses et qu'elles vont forcément mourir, mais pour quand même acter le fait que ce sont des choses qui arrivent encore. On a le jour du souvenir trans, fin novembre, qui commémore toutes les morts des personnes trans en France et dans le monde. Et cette année, on en est encore à 25 personnes qui se sont suicidées ou qui ont été tuées à cause de la transphobie. Donc ça existe encore, en fait, et c'est peut-être ça que je voulais montrer à ce moment-là, dans ma vie à ce moment-là. Je le ferai différemment maintenant. Je pense que j'aurais envie de montrer une vie de personne trans heureuse, qu'il arrive des belles choses. Mais à ce moment-là, je pense que je voyais tellement peu de possibilités pour moi et pour mes amis autour de moi que ça me paraissait important de finir sur quelque chose d'un peu brutal pour un public aussi qui n'était peut-être pas concerné par ça, en fait, par ces thématiques de la transidentité.
Alors quand même, ce court-métrage a eu un beau succès quand même.
Il a eu un beau succès, je n'ai pas regardé parce que c'est vrai que maintenant c'est quelque chose que j'ai fait à 18 ans, puis j'en ai 25, donc voilà, je le regarde pas tout le temps, mais je crois qu'on a fait 10 000 vues sur YouTube, quelque chose comme ça, et il a eu le prix du film lycéen à Chartres en 2018, si je ne m'abuse.
Et il a été projeté donc avec d'autres courts-métrages réalisés par tes camarades du lycée de Franconville au cinéma L'Étoile.
Oui.
Et devant un public de lycéens, de parents et puis de gens extérieurs, il a obtenu le prix du jury et le prix du public.
Oui, tout à fait. Je crois que c'est ça, oui.
Ouais, oui, ah bah oui, j'étais présent.
Oui, je sais plus, je sais que j'ai encore les petites statuettes chez moi, mais je ne sais plus ce que j'avais reçu.
Alors... Ouais, dans ce court-métrage, tu as dit l'importance de la musique.
Oui,
donc deux extraits musicaux dont tu as parlé.
Dans Dysphoria, tout à fait.
Ouais.
Oui, du coup, il y a Anita de The Do, qui était un groupe que j'écoutais beaucoup à ce moment-là. Et la chanson Anita a quelque chose de elle fait ce qu'elle veut, en fait. Elle est très libre, Anita. Mmh. Et je l'avais quand même pris comme une... Il y a cette scène où vraiment elle se permet d'être qui elle est totalement par... alors de manière un peu sommaire par des habits et du maquillage. Il n'y a pas que ça qui fait la personne et la femme, bien évidemment. Mais j'avais vraiment envie de quelque chose d'assez doux, parce que The Do, ça reste quand même de l'alt-pop alternative, donc quelque chose d'assez doux, mais en même temps quelque chose qui où on l'accompagne dans ce moment qui est le seul moment festif et agréable du court-métrage. Et donc il y a la musique de fin qui est donc Saint-Claude de Christine and the Queens. On a choisi l'instrumental parce qu'on voulait quelque chose d'un peu obscur, un peu doux amer, quelque chose qui fasse, ben oui, le court-métrage se termine sur la mort de quelqu'un, histoire de, je pense, d'avoir un générique un peu réflexif, parce que finalement il est assez long pour un 5 minutes, et donc on voulait terminer sur une note un peu lourde comme ça, et un peu, alors j'ai ce mot anglais qui me vient, qui est le mot gloomy, qui est une espèce de, entre le pas le glauque, mais quelque chose qui tient de ça, pas du bizarre, mais de cette étrangeté, de ce décalage, de se rendre compte un peu de ce à quoi on vient d'assister. Voilà.
L'ensemble était particulièrement réussi.
Merci.
Voilà, Samuel, il est temps de marquer une première pause musicale. Alors, tu as choisi, tu en parlais déjà tout à l'heure, Daft Punk.
Oui,
quel Daft titre Punk.
Aérodynamique, c'est celui qui vient juste après One More Time, qui est le single avec Harder, Better, Faster, Stronger sur Discovery. Et j'ai choisi Aérodynamique parce que il est un peu en deux parties. Et ce que je trouvais pas tant, c'est ce solo de guitare qui arrive, on va dire, à un tiers de la musique et qui, pour moi, est très important parce que j'ai toujours un peu oscillé entre le rock et l'électronique. Et les deux Daft Punk en parlent très bien aussi là-dessus. Ils voulaient des choses très baroques pour ce titre-là. Et ça rend tout à fait bien. Et voilà, et aussi parce que c'est un morceau qui apparaît dans une scène de l'Auberge espagnole de Cédric Clapiche. Et c'est la sortie de club. Et pour moi, les Daft Punk ont toujours charrié cette fête, des choses très joyeuses et très solaires, peut-être à des moments où moi je ne l'étais pas. Et donc voilà, c'est un peu mon premier amour de la musique électronique. Donc j'ai choisi cette track-là très difficilement parmi toutes les autres.
Extrait. Voilà, nous retrouvons Samuel qui continue à nous parler de ses combats en pleine adolescence, en forme de parcours du combattant. Donc Samuel, après tu entreprends des études de cinéma, mais...
Mais c'est très compliqué pour moi et je me rends compte que je vais être un peu encore comme au lycée, c'est-à-dire posé sur une chaise à gratter. Et là, je me dis, oh waouh, mais en fait, je vais pas partir en tournage, je ne vais pas faire des choses pratiques. Et surtout que je souffre d'un niveau d'anxiété qui est très handicapant. Donc je reste auditeur libre à ce moment-là à la fac. Et
Laquelle?
j'étais à Paris 1 Panthéon-Sorbonne en cinéma, au centre Saint-Charles, qui est dans le 15e arrondissement. Et donc à ce moment-là, je décide d'aller à tous les amphis pour quand même absorber. De la connaissance parce que j'avais quand même cette appétence-là, mais tout ce qui était travaux de groupe et en fait cette chose de savoir qu'on est noté, qu'on est évalué, me rendait vraiment profondément malade après toutes ces années. Et donc en cours de route, en fait, je commence à faire de la photographie de concert et en fait, ça devient mon métier et ça le restera pendant jusqu'à ce jour en fait. Donc ça fait, j'ai commencé, j'avais 18-19 ans, donc ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans que je fais de la photo d'événementiel et ça a commencé à partir de ce moment-là à la fac de cinéma aussi. C'était à peu près en même temps.
En même temps, un déclic, un film, 120 battements.
Oui, qui arrive un peu plus tôt, qui arrive dans mon année de terminale pour le coup. Ça, c'est la révélation pour moi à cette époque-là. Je vais le voir une première fois au cinéma. À Brive-la-Gaillarde, puis je retourne à Saint-Gratien pour retourner le voir. Et là, je comprends quelque chose, c'est que j'ai envie de militer un petit peu pour des choses importantes, pour de la santé sexuelle, pour la lutte contre le sida, pour contre les LGBT-phobies. Ça me paraît très important. Et puis surtout, il y a un pouvoir d'identification qui se fait à ce moment-là avec le personnage principal, avec Sean. Où en fait, à ce moment-là, je me dis, mais en fait, oui, je suis juste un jeune homme qui va tomber amoureux d'autres jeunes hommes. Et c'est ça, et j'avais du mal à m'identifier pleinement dans une figure de jeune homme. Et c'est à ce moment-là où ça me saute à la figure un petit peu. Et évidemment, la musique pour moi a été aussi très importante dans ce film. parce qu'il y a une reprise et un réarrangement de Small Town Boy de Bronski Beat qui parle justement de cet exil qu'on fait loin des siens, loin de là où on a grandi pour vivre pleinement sa vie telle que l'on est, parce que ça parle d'homophobie, Small Town Boy. Et pour moi, ce film raconte tout ça, tous ces débuts d'un petit peu... Alors, je ne vais pas dire que je suis un gros militant, parce que ce n'est pas vrai, mais au moins de faire valoir mes droits, de continuer de parler, de ne jamais se taire, et puis de m'assumer et de enfin être de me dire ah mais oui mais en fait je suis pleinement Samuel quoi, il faut que je l'accepte.
D'accord. Alors que s'est-il passé après ce déclic, ce film là qui t'a un petit peu poussé à agir, on va dire?
Au début, c'est vraiment trop compliqué. Comme je le dis, c'est très compliqué de trouver des figures qui nous ressemblent, de s'identifier. Alors, ça reste un film, quoi. Donc, il faut trouver des ressources. Et en fait, ces ressources-là, en plus du choc qu'a été... Moi, je venais de banlieue parisienne, donc le choc, déjà, d'arriver sur Paris est assez compliqué à appréhender pour quelqu'un de 18 ans. Donc, j'avais déjà, on va dire, ça à gérer. Et en fait, je laisse traîner mon identité jusqu'à un moment en fait, où je me rends compte que je suis juste très malheureux, très très malheureux, et que j'essaie de régler des choses, de partir, de tester des nouvelles choses dans la photo et tout ça. Et je reste excessivement malheureux, mal dans ma peau. Et je finis par aller demander de l'aide à Aide. Donc l'association Aide, qui a des maisons de santé un peu partout en France, à Montpellier, ville dans laquelle j'étais à ce moment-là. Et à Montpellier, on me dit, y a pas de souci, vous allez pouvoir commencer une démarche de transition, en fait. Et donc moi, je me suis axé sur l'hormonothérapie, donc l'injection de testostérone. Et j'ai pu suivre enfin, à partir de 2022, ce traitement hormonal-là. Et depuis, les gens vont souvent le définir comme une transformation. Moi, je le vois plus comme un alignement, c'est-à-dire une voix qu'on avait dans sa tête qui finalement finit par ressortir exactement comme on l'avait dans la tête, de se dire « Ah, mais en fait, la personne que j'étais à 14 ans aurait voulu me voir grandir et vieillir aussi comme ça ». Et à partir de ce moment-là, c'est très compliqué parce qu'il y a, les débuts de la transition dans lesquels je suis très androgyne. C'est très compliqué pour moi à appréhender, de laisser les gens dans le flou, de ne pas dans le milieu public, de ne pas savoir comment on va être nommé, que les gens se trompent en permanence. Les changements physiques aussi sont très compliqués pour ma part à appréhender au début. Je n'aurais jamais fait d'autres choix dans ma vie que celui de se dire « D'accord, je transitionne, c'est important pour moi, pour qui je suis, pour mon équilibre mental et pour ce que je vais faire, pour me voir grandir aussi. » Parce que je n'avais aucune perception de moi qui grandissait pendant très longtemps. Donc la transition a été aussi... l'accès à cette projection en tant qu'adulte qui grandit, en tant qu'adulte qui peut vieillir. Et je n'avais pas ça pendant très longtemps. J'étais juste quelqu'un d'excessivement très, très suicidaire parce que justement, je pense que je n'arrivais pas à me voir accéder à l'âge adulte ou à plus parce que je n'avais aucune projection mentale de moi-même, quoi. Donc voilà.
Voilà, Samuel, notre émission se termine. Alors, on va te retrouver prochainement dans une deuxième émission parce que tu as encore beaucoup à nous raconter.
Exact.
Voilà, donc, écoute, merci Samuel. Et puis, à très bientôt.
À très bientôt.
Voilà, c'était Didier sur IDFM pour un nouveau numéro de Rendez-vous Compte consacré aujourd'hui à Samuel qui nous a parlé très bien de sa transidentité. Donc on te retrouvera, Samuel. On retrouvera aussi cette émission en podcast, bien sûr, sur la page de l'émission, où on retrouvera également les croquis que Marine a dessinés pendant notre interview. Voilà, merci Marine. Et quant à moi, Didier, je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous compte sur IDFM, évidemment. Mais aussi, je vous retrouve le dimanche matin dans la matinale de midi pour ma chronique Nec plus Ultra consacrée aux expressions issues du latin et de la mythologie grecque. À bientôt.